Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM en ce lundi 14 novembre 2022. Et oui, début de semaine oblige. Avec vous, chers auditeurs et auditrices de Beurre FM, votre radio est là, rien que pour vous. Et ce soir, allez, en live jusqu'à 21h, on parlera de Marseille, top avant ce fameux mondial, cette phase finale, du côté du Qatar. On le rappelle, hein, dimanche 20 novembre, c'est le début de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et oui, qui recevra pour la première fois cette Coupe du Monde. La 26e, je crois, c'est bien ça, Juan Trossé, hein? Oui, ça doit être ça. Oui. En tout cas, on parlera aussi de la direction phare pour ses supporters du côté du Qatar. Et sans oublier aussi nos bleus en mode concentration. Et pas que, parce que l'infirmerie se remplit là. Et c'est pas trop bon là pour les hommes de Didier Deschamps. Et même pour vous, chers amoureux du football, françaises, français, ou même supporters venus d'ailleurs. N'oubliez pas le numéro du standard, on le rappelle, le 01 53 48 3000. On vous donne la parole ce soir. Qui choisir dans ce fameux 11 type des Bleus pour cette Coupe du Monde 2022? Voilà, la parole, on vous la donne. Au 01 53 48 3000, on vous fait remporter un magnifique ouvrage aux éditions Solar. Pour cela, vous appelez le numéro du standard, le 01 53 48 3000. Le match pour l'égalité, c'est l'ouvrage. Excusez-moi, c'est 32, Abdel. La 22e, et moi j'étais à la 26e.
Ouais. Ouais, t'as trop d'avance.
On est trop visionnaire.
Sa maturité.
On accueillera dans cette émission le guide de pratique fumoir avec Raphaël Guillot. Eh oui, le barbecue de Rafa. Eh bien, bien sûr, ça fait sourire Abdel, parce que moi et Abdel, on va s'en faire des barbecues pour cette Coupe du Monde 2022 et pas
En hiver.
Ouais, en hiver, c'est pas mal. Mais bien sûr, Abdel. Eh bien, justement, on va lui poser des questions. Comment faire en hiver avec ces fameux barbecues? Bon, ça te fait sourire, Anthony, à la réalisation. Mais toi, tu vas rester un petit peu cool, hein. Parce que hier, on a vu aussi, hein, que ce soit les Niçois, les Parisiens et aussi les Marseillais. On va revenir sur les Marseillais. On va présenter ce magnifique plateau. C'est parti.
Time Sport. Il est pour parler.
On l'a reconnu, c'est Boula. Comment ça va, Boula?
Alhamdoulilah, tout va bien.
Tout va bien, tranquillement?
Oui.
Oui? Un bon début de semaine, Boula. Dimanche, ouais, commence la Coupe du Monde, Boula. Tu seras au Qatar, Boula, peut-être?
Non?
Ouais. Tu nous dis non maintenant, mais bon, on verra après, ça c'est sûr. Non,
je suis invité, mais je pense pas que je vais y aller.
Tu penses pas? Et pourquoi, Boula? Pourtant, ça c'est sympa, une Coupe du Monde.
Ouais.
Ouais. On verra bien.
Il y a le match de l'Algérie, quoi.
Il y a le match de l'Algérie, justement. Alors, tu fais bien d'en parler, ça fait sourire Abdel, parce que on aura Nasser. Nasser, il fait le déplacement. Nasser qui fait le déplacement du côté de Malmö. Il y sera, et oui, ce week-end, en Suède pour suivre nos fameux Fennec.
Ouais. Vendredi, non? Fin de semaine?
Ah ben, fin de semaine, c'est ça.
Il joue le 16 et après.
Début de week-end.
Le 20, c'est dimanche.
Le 20, déjà, c'est dimanche. Ah oui, c'est vrai. Alors, le 16, il joue bientôt, là. Il joue.
On est le 14 aujourd'hui.
Il joue contre le Mali.
Voilà, c'est ça. Ouais, contre les Maliens. On a Abdel avec nous ce soir. Comment ça va, Abdel?
Ça va, Bilal, ça va très bien. Bonsoir à toutes et à tous. Très content d'être là.
Eh ben, nous aussi, Abdel, de t'avoir juste en face de toi. On retrouve Juan Trossé Dorado. Il est avec nous. Comment ça va, Juan?
Buenas tardes a todos. Eh oui, c'est la 22e.
Eh ben, ouais.
Coupe du monde.
C'est ça. La 22e, j'étais à la 26e. C'est pas bon. Désolé. Auprès de tous nos auditeurs. Ça le fait sourire. Allez, Anthony. Comment ça va, Anthony? Il est avec nous ce soir, le réalisateur.
Bonsoir. Comment ça va?
Ça va bien? Ouais.
Un peu difficile. Du match de vendredi soir, hein, après le penalty, le plongeon magnifique,
ouais, Lyon,
de Lyon, de Lacazette, qui devait, je pense, rentrer au JO, Lacazette. Hein. Là, le plongeon magnifique.
Ah ben, selon lui, c'est un plongeon. Ouais, d'Anthony. Et toi, Abdel, non, c'était pas trop un plongeon quand même.
Non, ah ouais, ça peut siffler beaucoup plus que la faute qu'a subi Payet hier, qui est sur le coup franc qui a permis à Marseille de repartir avec les 3 points du côté de Louis II.
Justement, 3-2, les Marseillais, à la dernière minute, hein, c'est bien ça, dans les arrêts de jeu, il s'est tant passé de choses, des blessures aussi, malheureusement, pour Amin Harit. Abdel, Marseille, quand même, ouais, ça reste dans, ouais, allez, ouais, la première partie de tableau, quoi.
Bah, plus que première partie de tableau.
Largue un peu les Marseillais.
Ils sont quatrième quand on voit, les équipes devant l'OM. On voit Rennes qui fait de très bonnes choses avec Bruno Genesio. On voit Lens de Frank Hayes qui fait de très très bonnes choses, et on voit le PSG qui comme d'hab écrase le championnat. Hier, on a vu un match quand même auquel on n'était pas on pouvait penser à qu'on n'allait pas s'attendre à ce genre de match avant justement la Coupe du Monde et les différents départs. Malheureusement, comme tu l'as dit, il y a la blessure d'Amin Harit qui est quand même un élément essentiel depuis un moment du côté de l'équipe marocaine.
Et c'est ça, on pense au Lion de l'Atlas aussi.
Pour revenir sur le match dans sa globalité, c'est vrai que Marseille, on avait l'impression depuis quelques matchs et même depuis le début de la saison que si ils n'arrivaient pas à marquer leurs occasions et à concrétiser les occasions franches qu'ils avaient, et ben souvent en deuxième mi-temps c'était un peu plat. Marseille était souvent entre guillemets en difficulté. Là, ce qu'on a vu, c'est une équipe quand même avec plus ou moins de caractère qui après avoir mené au score a couru derrière le score et jusqu'à égaliser à la dernière seconde par Kolasinac, si je me trompe pas.
97e.
Ouais, 97e. Je pense que les Marseillais auraient préféré qu'ils mettent la tête face à Tottenham, mais bon, ça reste un fait de jeu. Mais pour quelqu'un qui comme Igor Tudor, qui on l'a beaucoup défendu ici, qui avait sûrement besoin d'adaptation, besoin de temps, au final on va plutôt penser que cette première partie de saison entre guillemets avant la Coupe du Monde est plutôt réussie malgré l'élimination. Et voilà, ça a montré du caractère. Hier on l'a vu quand même, c'est quelqu'un qui, dernier mot par contre, qui reste très calme. Souvent on avait l'impression qu'il exprimait pas ses émotions, qu'il criait beaucoup derrière ses joueurs, mais à la fin au coup de sifflet final, il a explosé, il est rentré sur la pelouse de Louis II et on a vu que lui aussi ça lui enlevait un poids, qu'il était soulagé et peut-être aussi partager ça enfin des moments de plaisir avec ses joueurs, lui qui paraissait un peu plus distant avec son groupe depuis son arrivée.
On trossait.
Alors, en ce qui concerne, là où je suis pas d'accord du tout avec
Abdel, c'est que pourquoi.
Pour moi, c'était un match essentiel. Je vous l'avais dit la semaine dernière. Il était essentiel parce que il fallait d'un côté marquer la différence par rapport à Monaco et passer devant Monaco. D'un autre côté, il fallait aussi effacer cette humiliation d'élimination en coupe, en Champions League. Et ils ont réussi, même pour ce dernier match et cette trêve mondialiste, ils ont réussi quand même à se repositionner dans le classement. N'oublions pas, ils sont quand même encore assez loin du 12e, puisque il y a 6 points de différence avec Lens et 5 avec Rennes. Mais ce qui est important maintenant pour Marseille, c'est de se concentrer sur la Ligue 1, puisqu'il n'y a que ça à jouer, et décrocher à nouveau le sésame qui est une 12e place pour aller en Champions League l'année prochaine. N'oublions pas non plus que à la rentrée, le premier match après Mondial, ça va être le 28 décembre, je crois, pour la Ligue 1, 31 pour la Ligue espagnole. Et Marseille va devoir quand même mettre le boucher double. Pourquoi ? Parce que Marseille va recevoir à Toulouse et ses adversaires directs vont tous jouer à l'extérieur. Ça sera à nouveau un match essentiel pour se rapprocher de Lens, pour se rapprocher de Rennes et essayer de distancer Monaco. Maintenant, la tête, elle doit être à Ligue 1. Et n'oublions pas non plus une dernière chose, c'est l'arrivée d'un nouveau sponsor maillot pour les Marseillais. Et qui est appelé dans les mois à venir, peut-être la saison prochaine, voire dans deux saisons, à être aussi un partenaire actionnaire de ce club. Donc maintenant, à Marseille, de démontrer que sportivement parlant, cette élimination en Champions League n'a pas laissé des traces, et montrer qu'il mérite effectivement le fait d'être la seule équipe française qui a pour l'instant gagné un titre européen en Champions League.
Ouais, là, contre 7, j'essaie un peu de taquiner les supporters français, autre que le football, mais aussi parisien. Moula, il répond quoi à ça?
Bah moi, je pense
concernant les Marseillais.
Bah, le projet de l'OM, le projet de l'OM, je crois que le plus important, je pense que c'était un mal pour un bien qu'ils se fassent éliminer, parce que les résultats qu'ils ont en championnat, ça va leur permettre aussi d'avoir un vrai souffle. Et ils gagnent un match très important, comme il dit Juan José, ils gagnent un match très important à Monaco. Moi, je trouve que c'est le match qu'il fallait gagner et ils le gagnent au bon moment, surtout quand ils partent en vacances. Et ça, c'est quand même important. Ça veut dire qu'ils vont trouver un deuxième souffle. Et Tudor, moi, je trouve que c'est l'homme de la situation. par rapport à ce que j'ai vu depuis le départ. Après, la Ligue des Champions, aujourd'hui, il faut un banc. Et je pense qu'il n'a pas le banc pour se qualifier. Il a juste un banc pour jouer les trois premières places. Et ça, c'est un peu le projet du président, parce qu'il a bien dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on fasse tous les ans la Ligue des Champions. Et je pense qu'ils sont bien partis pour faire la Ligue des Champions. Après, il y a un système défensif costaud à Marseille qui est très très intéressant. Ils ont des joueurs très très de joueurs de qualité au niveau du système défensif.
Troisième défense du championnat.
Voilà.
Ouais, et le problème, j'aurais gardé des
boulins pas tort là.
Troisième défense du championnat.
Après, il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est qu'ils ont pas la qualité de milieu offensif de créateur qui leur manque. Le seul qu'ils ont qui est talentueux, c'est le petit Turc.
Under.
Voilà, Under qui joue pas, qui a pas assez de temps de jeu. Après, Guendouzi, ça reste quand même un milieu relayeur, milieu défensif. C'est pas un milieu qui apporte un truc offensif. C'est dommage que Payet n'a pas le souffle nécessaire et il est conscient de sa situation, Payet, parce que c'est pour ça que quand il parle en com, il dit les mots qu'il faut par rapport à la gestion du coach et par rapport à son statut. Après, il y a un joueur qui est exceptionnel à l'Olympique de Marseille. Qu'ils l'ont pris au dernier moment, qu'ils l'ont quand même gardé au dernier moment, c'est Amin Harit, qui était en train d'exploser par rapport à ses qualités qu'on lui connaît en équipe de France, quand il a été champion d'Europe de 19 ans et quand il a été avec Nantes, c'est pour ça qu'il a pu être transféré. Et c'est cette qualité de Amin Harit apporte ce côté offensif milieu quand il provoque et quand tu sentais que le gamin, il était dans une spirale, tant mieux à son agent, parce que je pense
sorti
que Maïssa
sur civière hier lors de la victoire Boula.
Maïssa, elle l'a bien préparé et c'est pour ça qu'aujourd'hui
le milieu offensif marocain de 25 ans, on le rappelle, hein, se retrouve à ses forfaits. Ben oui, pour la Coupe du Monde. Et il devait être
juste
absent.
Je vous parlais de la défense et c'est vrai ce que dit.
Alors retrocède.
C'est que on attaque, c'est là où il y a un manque quand même si Alexis Sanchez a marqué un but superbe hier. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'Olympique de Marseille n'est que la 7e attaque du championnat. Donc, elle est au niveau de l'attaque dans le ventre.
Tu vois, quand tu parles de Alexis Sanchez, il n'a pas les joueurs offensifs pour qu'il apporte. Il est obligé des fois de décrocher.
Oui, c'est pour ça que tu
es. C'est bien que t'en parles. C'est bien que t'en parles
dans les chiffres.
Mais Alexis Sanchez, ça reste un joueur de classe.
Ouais.
On l'a vu sur le coup franc. On l'a vu sur des phases de jeu intéressantes.
Ouais. Alors Boula, on a des réactions. On a Nasser qui est tout à fait d'accord avec toi concernant l'Olympique de Marseille, Juan José. On a aussi ton ami Daubert, Boula. Voilà, c'est Mamadou qui te passe le bonsoir. Il est sur la route. On nous dit un clin d'œil à Boula. Voilà. L'ami Daubert. Je sais pas, Boula. Moi, je lis des réactions sur les réseaux sociaux. Voilà, on me dit Mamadou Daubert pour son ami qui est Boula. Oui, on t'écoute. Abdel, non, vas-y, avant la pause.
Pour revenir sur ce dont parlait Juan et Boula sur la force défensive, c'est quelque chose qui se fait depuis quelques années maintenant. Quand bien même Sampaoli, on nous avait fait croire que c'était un peu le style... Bielsa tout vers l'attaque. Au final, on voyait que les forces en présence, elles étaient aussi en défense et que c'était notamment grâce à ça qu'il avait pu engranger des points. Là, on voit quelqu'un comme Tudor qui a été un joueur formé en Italie, qui a beaucoup coaché en Italie. Donc, le fait d'avoir aussi s'appuyer sur une défense avec des joueurs d'expérience, parce que il y a notamment Bailly qui est arrivé et aussi Chancel Mbemba qui est quand même une révélation pour pas mal si on suit pas le championnat portugais. Malheureusement, c'est vrai que Amin Harit faisait de très bonnes choses. À contrario, avec sa blessure, faudra trouver peut-être un autre joueur capable de faire la différence. Et ce qui est bien, là, on parlait du fait que Alexis Sanchez est plutôt un joueur électron libre plutôt qu'un point de fixation. Le fait que le feuilleton Bamba Dieng soit arrivé à sa fin et que le petit fasse de très bonnes entrées, capable de prendre de la profondeur, d'amener de la percussion. Et ben, certes, il sera pas là pour travailler pendant cette trêve parce qu'il est sélectionné avec le Sénégal, mais ça pourrait être un élément. Un bon détonateur pour la deuxième partie de saison de l'OM, parce que tout ce qui est offensif, ça reste un peu statique, ça vient un petit peu des couloirs, mais plein axe, c'est vraiment assez dur. Et lui, je pense franchement qu'il peut s'imposer, et on le répète jamais assez, c'est l'OM, c'est un contexte difficile et c'est un joueur lui qui a voulu rester alors qu'il aurait pu sévir à certaines sirènes à gauche et à droite. Et c'est important de voir qui croit en l'OM, que le projet est là, et j'espère le voir en bombe pour la deuxième partie de saison.
Et c'est important de le rappeler. Merci Abdel. Rapide.
Je pense qu'il y a,
c'est la pause.
Il y a deux réflexions. La première, il faut attendre le mercato. Je pense qu'effectivement, avec la blessure d'Harit, il va y avoir un mercato qui va être mis à profit. Et puis la deuxième chose, par rapport à Marseille, il faut qu'il reste concentré, parce que de toute façon, ça ne dépend pas uniquement que de Marseille, mais je doute que des équipes qu'on
merci.
Et le bon touche nécessaire pour pouvoir tenir la distance et la cadence d'ici la fin de saison.
Intéressant, retrousser Abdel, tout comme Boula. Vous restez avec nous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM, le 0153483000. 48. On revient rapidement avec notre invité.
Les informés reviennent dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM.
De retour sur l'antenne de Beurre FM, il est 20h20, toujours en compagnie de Boula, notre consultant Abdel, pour m'accompagner, sans oublier Juan Trossé. Il est toujours là avec nous, le réalisateur, et le 0153483000, c'est le numéro du standard, un de plus simple. Vous le composez, on fait passer à l'antenne, on vous fait remporter un magnifique ouvrage. Pourquoi pas aussi repartir avec le guide pratique fumoir. Voilà, on n'en dit pas plus et on va accueillir notre invité. C'est parti.
Time Sport. La parole des sociaux.
Eh ouais, allez, une petite pause qui doit s'imposer rapidement avec notre invité pour la première fois avec nous, Raphaël Guillot, justement, et son fameux guide pratique fumoir aux éditions Thierry Soucard. Voilà, il est avec nous ce soir. Bonsoir, comment ça va Raphaël ?
Bonsoir tout le monde, ça va super bien.
Ah ben justement, on aimerait revenir un peu avec vous, parce qu'on le rappelle aussi Raphaël, hein, vous êtes aussi le fameux fondateur de la chaîne YouTube, le barbecue de Rafa, c'est bien ça ?
Exactement.
Voilà. Et aussi, c'est nous qui allons vous mettre au défi, parce que vous, c'est vrai que, voilà, notre défi, c'était de nous proposer comment faire un barbecue ou même une plancha à l'approche de ce fameux mondial au Qatar. Bon, là-bas, il se fera très très chaud. Ici, malheureusement, il y aura juste peut-être dans le sud de la France et encore du soleil pour l'apercevoir. Mais comment pourra-t-on faire un magnifique barbecue entre amis, en famille, pour regarder ces fameux matchs de l'équipe de France et même des autres nations ? Dites-nous comment on peut.
Alors en fait, le barbecue, ça va pas juste être juillet-août, hein, on peut en faire tout le temps. Surtout maintenant avec les barbecues à couvercle, donc ce sont des barbecues qui vont permettre d'avoir plus d'humidité dans la cuve, qui vont nous permettre de l'utiliser comme un four à chaleur tournante et de protéger de la pluie, donc c'est vraiment parfait actuellement.
Ouais, c'est justement parfait. Abdel, justement, tout comme moi, qui est amoureux des barbecues, hein, non pas que des chichas, mais c'est vrai que ça pourrait, ça le fait sourire, Abdel. C'est vrai que ça pourrait le faire, quoi. Abdel, une réaction. Allez, avec notre invité ce soir.
Non, je voulais savoir, tout simplement parce qu'on parlait du fait que ce soit, en hiver, moi, ça, c'est pas dans les coutumes, on va dire.
C'est vrai.
Habituelles, mais, Comment dire, quel est pourquoi avoir déjà, moi, c'est à chaque fois qu'on crée un guide, qu'on crée des choses comme ça, je voulais savoir pourquoi vouloir inspirer, donner des conseils aux fans de barbecue, tout simplement.
Ouais, bah vous voyez, moi j'avais fait un voyage au Québec en 2012 et j'avais vu que même avec un mètre de neige, justement, il faisait des choses incroyables et je me suis dit comment ça se fait que dans le pays de la gastronomie, on va faire des saucisses, brochettes, côtes de bœuf pour les plus téméraires et alors qu'on peut en faire toute l'année avec ces cuissons basse température. Donc j'ai commencé à créer un blog, puis une chaîne YouTube, j'avais écrit mon premier livre, etc. Et maintenant, il y a plus de 450 vidéos sur ma chaîne YouTube, et l'idée c'était vraiment de dire, ben voilà, je découvre le barbecue moderne, qu'on peut faire autre chose que des saucisses et des brochettes, par quoi commencer, par où commencer, et donc dans ce livre, le guide pratique du fumoir, il y a vraiment un pas à pas pour devenir spatule noire de barbecue, donc un peu comme des comme des ceintures au judo, l'idée c'est d'y aller progressivement.
Mais ça c'est super, Anthony, ça donne peut-être des idées. Anthony, lui en plus, il supporte un club qui se trouve dans le sud de la France, hein, Raphaël. Ça faut le rappeler, les Niçois.
Exactement.
Ouais, la France régionale, ça c'est pas mal.
J'ai envie de dire, le barbecue à Nice, en hiver, c'est royal. Alors comparé à Paris où il fait froid, c'est à ça. Nice il fait jamais froid. Ouais. C'est la plus belle ville du monde. Je vous le dis ça. Je pose ça là. Merci. Au revoir.
Alors la boula avec Raphaël Guillaume.
Quand on parle de barbecue, il y a aujourd'hui il y a des nouveaux barbecues qui sont sortis, qui sont modernes ou qu'il y a une facilité de faire des barbecues, mais bon, faut en hiver, faut vraiment un balcon. Faut vraiment un balcon, mais moi j'ai vu les nouveaux barbecues. T'es en contact avec les gens qui les vendent, ces barbecues est-ce qu'ils te sollicitent sur les grandes marques de barbecue?
Oui, en fait, moi j'ai la plus grosse communauté francophone sur le barbecue. Donc sur le barbecue de Rafa, on est presque 145 000 sur ma chaîne YouTube, 230 000 sur ma page Facebook. Et donc les marques viennent comme ça pour que je puisse tester. Et ça fait que du coup dans mon jardin, il y a quand même 17 barbecues. Ah, donc tout type de barbecue. des connectés, des pas connectés, des en céramique, des tout simples. Voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans le livre, le guide pratique du fumoir, au tout début, je fais un petit quiz où je dis, par exemple, quel type de voiture t'aimes bien. Alors, il y en a qui vont aimer des voitures électriques où il y a rien à faire. Donc, ils vont peut-être préférer des barbecues à granulés qui sont connectés au téléphone, etc. Et d'autres qui vont dire, non, moi, j'aime les 4x4 où faut mettre les mains dans le cambouis. Et ben voilà, toi, tu vas peut-être préférer des barbecues type texan où tourne avec des bûches, ça demande beaucoup plus d'attention, etc.
Et le pays qui est le plus spécialiste en barbecue dans le monde?
Alors, il y en a pas vraiment, parce que c'est ce que je dis, en fait, de toutes les ethnies, de tous les temps de l'univers, en fait, on a toujours cuit à la flamme. Alors après, il y a des grandes différences entre le barbecue texan, donc c'est ce que j'explique dans le livre, des cuissons basse température, avec la fumée. Il va y avoir le barbecue argentin, donc c'est des grosses pièces de bœuf, par exemple. Il va y avoir le barbecue coréen, c'est des petites viandes marinées. Il va y avoir le barbecue sud-africain, enfin voilà. Voilà, on en retrouve partout et de tout le temps.
Comme l'Argentine, c'est une des plus viandes.
Ouais, la bonne
viande. La viande, c'est une des plus grands au monde. Je suppose que l'Argentine, c'est des spécialistes du barbecue.
Exactement. En fait, un Français va manger en moyenne 19 kilos de bœuf par an et par Français. Là-bas, ils sont à 59 kilos par Argentin, donc c'est absolument incroyable.
Et la raison, Boula.
Tu es le Zizou du barbecue.
Ah ben, mais c'est ça. Tu peux le voir comme ça. C'est vrai. Le Zizou.
Il va le confirmer à certains. Mais il faut savoir que dans la culture argentine, avant les grands matchs de football, 3 heures avant, les gens se rendent rendez-vous dans les parkings pour faire un barbecue, et après ils rentrent dans les stades voir les matchs. Ça, c'est en Argentine. Donc, il y a une vraie culture. Il l'a pas cité, mais il y a aussi le Brésil qui a quand même une grosse culture du barbecue.
Raphaël, Globetrotter.
Mais moi, je reste avec le Texan. C'est vrai que c'est celui qui est le plus impressionnant.
Pareil, avant des matchs de foot américains, ils viennent, ce qu'on appelle des tailgate parties.
Une petite question sur le fait que, comme vous le disiez, on vous envoie des barbecues pour les tester. Comment elle est prise la réaction si c'est quelque chose de mauvaise qualité et que vous le dites devant vos 145 000 personnes qui vous suivent habituellement?
Alors moi, en fait, c'est pas mon travail, c'est vraiment ma passion. Moi, je suis ostéopathe, donc c'est vraiment par passion que je fais ça. Donc déjà, je connais le matériel, je vois est-ce que il est innovant, est-ce qu'il a une technologie particulière, est-ce qu'il a un look, un design qui m'attire. Et en fait, moi, je refuse déjà 50% des partenariats sur ma chaîne YouTube parce que je veux des choses vraiment comme si je le conseillais à ma mère, à mon frère, etc. Et donc je teste ensuite. Et puis moi, je suis pas un magazine, donc si je dis ça c'est bien, mais c'est chiant à nettoyer, ça c'est plus facile, ça c'est un peu cher, faites-le comme ci comme ça. Et c'est justement pour ça que mon livre s'appelle le guide pratique du fumoir, parce qu'il y a ce côté pratique, c'est-à-dire que j'ai testé, on a testé sur la communauté avec tous les commentaires, les messages que je reçois régulièrement sur ma chaîne YouTube, et du coup là c'est vraiment des choses qui fonctionnent.
C'est bien,
Boula,
c'est bien
d'avoir, avant de quitter d'avoir l'invité,
ton côté commercial, parce que moi je dirais plus, c'est plus un côté commercial honnête d'essayer de faire passer ce message avec des trucs de qualité. Et je pense qu'il y a des trucs que tu as dû être sollicité. C'est toi qui fais le choix avec qui tu vas fonctionner dans la réflexion au niveau des barbecues.
Oui, et puis il y a pas que ça aussi, il y a une relation un peu humaine derrière tout ça. Voilà, moi des fois il y a des marques qui sont super et tout ça, mais avec le commercial, avec leur ligne directrice du marketing, ça me plaît pas. Je préfère travailler avec d'autres. Donc c'est vraiment un ensemble il y a de choses quand on choisit de travailler avec des marques de barbecue.
Et tes qualités d'ostéo? Ils en ont besoin des ostéos.
Ah bah oui.
C'est fascia ou ostéo? C'est fascia ou ostéo?
C'est fascia. Est-ce que c'est fascia ou ostéo? Et l'ostéopathie, à part le fait de manipuler un peu de la viande. Ouais,
c'est vrai. C'est vrai, on manipule un peu les nerfs et tout, c'est vrai.
Et c'est pas mal, c'est pas mal. Raphaël Guillot, merci. On le rappelle, Raphaël, hein, grand passionné.
Tu peux m'envoyer un livre
au barbecue. Il est là, le livre. On l'a dans la main. Je vais te l'offrir, le livre. C'est comme si Raphaël Guillot te l'offrait. Non, on l'a. Il est grand passionné de cuisine au barbecue. Et il anime aussi le blog lebarbecuedorafa.com, on le rappelle, dont l'objectif est de dépoussiérer un peu ses recettes traditionnelles. Il est suivi par pas plus de 500 000 personnes sur les réseaux sociaux et le chiffre ne cesse d'augmenter, voilà, de croître. Un grand merci, on le rappelle, le guide pratique fumoir pour tous les barbecues en famille, entre amis, concernant justement l'approche des fêtes de fin d'année, mais sans plus tarder, ça sera surtout le mondial 2022 au Qatar. Un grand merci à vous, Raphaël.
Merci à toute l'équipe. Au revoir.
Merci.
Au revoir,
bonne soirée. On continue avec le mondial et les hommes du Didier Deschamps.
Time Sport, le mode pressing.
Allez, Boula, c'est toi qui as une dédicace. Il les connaît bien, Abdel. Hein. C'est la dédicace pour les U13 de Sartrouville. Dédicace au tonton Boula. C'est Shakib, Dayin, Imran et Ismaël. Voilà, qui nous écoutent chaque soir, eux aussi. Ils sont amoureux de barbecue, tout comme leur entraîneur, qui n'est autre que Kamel. Oui, Abdel, on t'écoute.
Le truc de Sartrouville, ça a l'air d'avancer, leur...
On les avait eu la dernière fois, en plateau, et là, ça avance pas mal aussi. Et
puis, je pense qu'ils ont mis, ils ont fait pas des efforts, mais ils ont essayé de composer pour pas que les jeunes ils soient dans une situation qui est pas évidente.
On pense toujours aux U13 de Sartrouville, mais aussi à ce club. On le rappelle. Voilà, big up à vous. Abdel, les hommes de Didier Deschamps. C'est vrai, on sait plus où donner de la tête. Quel effectif, quel choix tactique aussi pour l'équipe de France.
Alors clairement, on a encore eu des surprises aujourd'hui avec notamment le forfait de Presnel Kimpembe remplacé par Axel Disasi, le capitaine monégasque. En plus de ça, il restait une place vacante et c'est Marcus Thuram qui fera le voyage au Qatar. Ça peut s'expliquer par le fait de son très bon début de saison avec 10 buts inscrits notamment en Bundesliga. Tout à l'heure, Didier Deschamps disait que Lucas Hernandez et son frère Théo seraient en concurrence pour le poste de latéral gauche. Donc ça veut dire qu'on aura forcément un nouveau en défense centrale après avoir qui sera disponible. Celui qui semble tenir la corde, j'ose imaginer que Jules Koundé est là et on verra avec qui il sera associé, enfin en tout cas en attendant le retour de Raphaël Varane. Après voilà, c'est comme on pouvait le dire dans les semaines précédentes, une équipe qui va, un Didier Deschamps qui va revenir à son système initial de quatre défenseurs parce qu'il a gagné en tant que joueur comme ça, il a gagné en tant que sélectionneur. La seule interrogation reste le milieu de terrain, dans le sens où c'était trois joueurs en la personne de Matuidi, de Kanté, Pogba qui étaient là au Mondial 2018, une véritable ossature qui faisait très bien le lien entre la défense et l'attaque. À l'heure actuelle, les deux qui semblent tenir le plus la corde sont Adrien Rabiot et Aurélien Tchouaméni.
Ah ouais, selon
pour
toi.
Moi, oui, sur des dernières déclarations aussi d'Adrien Rabiot. Maintenant, reste à savoir comment Didier Deschamps souhaite compléter son milieu de terrain, parce qu'on voit que les choix, on a Tchouaméni qui a déjà joué avec Kamavinga ou qui a déjà joué avec Youssouf Fofana. On a Guendouzi qui a un profil aussi un peu plus travailleur qu'affectionne Didier Deschamps. Donc pour moi, à l'instant T, Didier Deschamps ne sait pas encore lequel de ces milieux il va mettre, à moins qu'il y ait une surprise et qu'il fasse descendre Antoine Griezmann. Dans le sens, j'explique, qu'on connaît l'équipe de France, ça joue beaucoup en contre, beaucoup en transition. Et seul Kylian Mbappé est capable d'avoir ses qualités de vitesse.
Ouais.
Donc pourquoi pas ne pas rajouter un joueur tel que Kingsley Coman, qui l'affectionne beaucoup, encore Ousmane Dembélé, qui fait de belles choses depuis les 6 derniers mois. Donc on est un peu dans l'interrogation, même si je pense qu'il y a quand même une ossature de 7-8 joueurs qui se dégagent maintenant à une semaine du premier match au Qatar.
Ok, justement, les bookmakers s'en parlent, on est obligé d'en parler ce soir. Thuram arrive bel et bien, mais Benzema qui fait peut-être trembler la France. Juan Trossé, je me retourne vers toi, parce que c'est vrai, on en parle. Benzema, sera-t-il présent? Sera-t-il absent? Benzema, sera-t-il blessé? Qu'est-ce qu'on nous cache?
Alors,
ça commence à en parler quand même. Bon, oui, c'est vrai forcément. Que ça fustige un peu sur les réseaux sociaux, mais la question se pose.
La question
commence.
La question se pose, et se pose parce qu'il y a quand même des données qui qui sont là et donc on ne peut pas discuter. Donc la première des questions, c'est que il faut savoir que Benzema ne joue pas depuis le 19 octobre. Depuis le 19 octobre, il n'a pas joué avec le Real Madrid, hormis 26 minutes face au Celtic. Donc depuis pratiquement un mois, il est absent du 11 du Real. Donc on a des questions à se poser parce que, rappelez-vous, ce qui a été le rapport médical du Real parlait des fatigues musculaires au niveau de sa cuisse gauche. Mais une fatigue musculaire qui dure depuis plus d'un mois, ça devient pas vraiment de la fatigue musculaire. Il a raté 5 des 6 derniers matchs avec le Real. Mais il a raté en tout, depuis le début de saison, 7 matchs sur 14 des Ligas. En tout, il a raté 9 matchs avec le Real cette saison. Et là, on ne se rend pas compte.
Ouais.
Mais ça fait quand même 9 matchs où il n'était pas là.
Entre ces, on va revenir rapidement avec toi, avec Boula et avec Abdel, notre consultant. Restez à l'écoute, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
De retour sur l'antenne de Beurre FM, 20h et 37 minutes, on se lundi 14 novembre, début de semaine oblige. 21h, vous retrouverez, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM, Vanessa, jusqu'à 23h et ensuite la suite des programmes. Et oui, vous pouvez nous réécouter sur le site beurrefm.net et notamment à noter concernant l'application sur vos smartphones. Voilà, on parlait de Karim Benzema, de cette équipe de France à l'approche de la phase finale de la Coupe du Monde au Qatar 2022. Oui, Juan Trossé, on revient à toi avant de retrouver aussi l'auditeur avec qui nous appelle, qui a composé le 0153483000.
Juan Trossé. On était en train de parler de Benzema, et donc hormis donc des renseignements comme je vous ai donné, 9 matchs ratés depuis le début de saison avec le Real Madrid, donc cette histoire des fatigues musculaires peut nous faire douter de la réalité de ce qui se passe au niveau de la cuisse gauche de Benzema. Ça pourrait expliquer, c'est l'une des deux raisons, ça pourrait expliquer par exemple la présence de Giroud. D'un côté, vous savez que Giroud et Benzema ne peuvent pas jouer ensemble. Donc, si Didier Deschamps sait que ne peut pas compter avec Benzema peut-être pour tous les matchs, ça pourrait expliquer, comme je disais, la venue de Giroud en équipe de France. L'autre explication, c'est parce qu'il souhaite faire un cadeau à Giroud, mais ça serait pas à l'honneur de Didier Deschamps de faire un cadeau comme ça. Donc, là où je t'ai pas, pour revenir sur ce que nous a dit Abdel, là où je suis pas d'accord, c'est au niveau de la défense. Je pense que le seul poste en défense qui est clair aujourd'hui, c'est Lucas Hernandez, côté gauche, avec Théo en doublure, le cas échéant. Dans l'axe, c'est le flou le plus total, avec la blessure de Kimpembe, et parce que Varane, qui devrait être un titulaire indiscutable, il faut rappeler qu'il vient de reprendre les matchs, il a été blessé. Est-ce qu'il a le rythme pour pouvoir affronter comme ça dans quelques jours les Australiens? Et puis côté droit, c'est clair que ça va être Pavard, puisqu'il avait déjà annoncé notre ami Didier Deschamps qu'il va jouer avec une défense à 4. Alors le problème du milieu de terrain, bon, Tchouaméni apparemment c'est celui qui est parmi tous ceux qui sont là, c'est lui qui est pratiquement sûr d'être titulaire. Je pense que c'est Fofana qui va l'aider à côté de lui, avec un Rabiot et un Griezmann légèrement devant. Et puis bien sûr l'autre doute, est-ce que Benzema sera là, est-ce que Giroud pourra le remplacer, ou est-ce que Didier Deschamps va nous surprendre avec un sur le côté gauche avec notre ami Mbappé, et sur le côté droit par exemple Ousmane Dembélé, et pas jouer avec avant-centre. Rappelons-nous encore, c'est l'Australie, le premier match de la France. C'est une équipe défensivement pas extrêmement technique, mais très fort physiquement. Et donc peut-être là, on aura besoin.
Mardi 22 octobre.
Déséquilibre.
22 novembre, excusez-moi, à 20h.
Une solution.
Bon, là, on l'écoute.
Je suis d'accord. Là, tu parles de l'Australie. Mais moi, le problème de Benzema, il est vite fait. Bon, tu vois les deux saisons qu'il fait cette année. Aujourd'hui, peut-être, il est dans une période où, à un moment donné, il accuse tout ce qu'il a fait depuis 2 ans.
Certainement.
Et tout ce qu'il a fait depuis 2 ans. Moi, personnellement, je ne suis pas inquiet. Le seul truc où je suis inquiet, c'est que la qualité milieu offensif n'est pas au niveau de la qualité de Benzema. Parce qu'il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'équipe qui est faite aujourd'hui, c'est un système défensif. Ce n'est pas un système que le football de Benzema va ressortir. Je pense qu'il est, il est, euh, il a, il faut lui donner un joker parce que c'est pas évident de jouer avec les joueurs qu'il y a autour. Il a pas cette qualité.
Et Tchouaméni quand même.
Non, mais Tchouaméni, il joue.
Il commence à avoir des vrais automatismes.
Oui, mais il a des automatismes. On sait, Tchouaméni, c'est un phénomène. Le Real de Madrid, ils l'ont acheté 80-100 millions. On sait que c'est un joueur qui est exceptionnel. Mais après, il y a un truc parce que faut pas. Aujourd'hui, on va commencer la Coupe du Monde. Mais Benzema, il a un désavantage. Il a pas cette qualité offensive. Au niveau réflexe technique, au niveau lecture technique, dans les milieux offensifs, il y a pas ce, il y a, c'est pour ça que Griezmann, quand il a été au Real de Madrid, il a été à Barcelone, il jouait pas trop, tu le sais très bien. Le système de Deschamps, il est dans un bloc défensif. Et quand on parle du défenseur central, je pense que Pavard, dans ses débuts, il jouait dans l'axe. Et il sait très bien que c'est les joueurs qui peuvent jouer dans l'axe. La seule parade qu'il peut avoir Deschamps, il connaît les profils de joueurs qu'il a, surtout en défense. Mais ça va être une Coupe du Monde France, plus défensif qu'offensif. Et il y a un truc qu'il faut dire, c'est que là, tu joues avec le ballon d'or dans l'équipe, mais le ballon d'or, est-ce qu'il a les joueurs de qualité autour pour faire la différence comme il nous a fait éclaircir son jeu au niveau mondial? C'est pour ça qu'il est... Aujourd'hui, t'as Benzema, le meilleur joueur du monde. Est-ce que les joueurs de qualité autour... Et c'est pour ça que je donnerais...
Griezmann n'est pas à 100%, mais il est quand même... techniquement, il n'y a pas de doute sur ses qualités. À l'Atlético de Madrid, il vient de sauver à plusieurs reprises l'Atlético de Madrid. Il a commencé à marquer des buts. Après, moi, je suis d'accord avec toi, c'est le milieu de terrain. Oui. Parce que je ne sais pas si le milieu de terrain français peut se comparer au milieu de terrain argentin,
espagnol.
Brésilien. Espagnol, il est très jeune.
Oui, mais très jeune, mais il y a les automatismes.
Oui, il y a les automatismes avec les Gabi, Pedri, Busquets.
Pedri, c'est quand même les joueurs qui ont eu le ballon d'or au niveau espoir.
Les deux, oui.
Ouais, les deux. Et quand même, t'as quand même les deux meilleurs espoirs du monde qui sont là. Et puis tu connais le football, c'est t'as défensif et t'as la joueur de qualité offensif.
On a beaucoup de doutes en fait.
Abdel,
on a beaucoup de doutes sur le 11 de départ qui peut donc nous présenter Didier Deschamps.
C'est pour ça qu'on a posé la question.
La semaine prochaine,
c'était le débat du jour, le mardi 22 novembre. Abdel, on écoute premier match de l'équipe de France face à l'Australie.
Bah déjà, concernant Karim Benzema, c'est vrai que on peut avoir certains doutes, mais pour moi, c'est quand même, ça ressemble beaucoup à une blessure diplomatique pour moi, dans le sens où même s'il a raté beaucoup de matchs, on aurait pu se dire que voilà, il y a réellement quelque chose. Après, on sait très bien que c'est ce qui lui manque à son palmarès, que c'est quelqu'un, par contre, qui a toujours été un travailleur hors pair depuis des années. Donc, il sait se préparer, il connaît bien son corps. Donc, bien évidemment, rien ne remplace la compétition et l'absence des matchs fait que on pourrait peut-être le voir à court de forme si jamais il débute. Après, ce que dit Boula sur ça, c'est vrai que on a beaucoup changé de système dans ces derniers temps, dans le sens où, Il y a 4 ans qu'on est à la Coupe du Monde, on jouait un système à 4 avec Mbappé devant qui était un peu méconnu et qui a pas mal surpris aussi les défenses. On est passé à un système à 3 où notamment Benzema faisait office de numéro 10, venait beaucoup décrocher et n'a pas eu cette connexion avec Griezmann qui lui était un peu en perte de vitesse. Mais j'ose imaginer que voilà, ce sera pas du jeu certes défensif comme l'a dit Boula, mais je pense qu'il y a quand même des qualités devant et que on peut surprendre l'adversaire. Est-ce que Deschamps peut faire en jouant en 4? Il peut jouer en 4-2-3-1, il peut jouer en 4-4-2, il peut jouer en 4-3-3. Après tout dépendra de l'animation offensive, mais pour moi le réel problème, c'est que ça peut manquer de vitesse et de percussion. C'est pour ça que je soufflais l'idée de pouvoir potentiellement mettre un joueur comme Coman ou Dembélé, parce que pour revenir au milieu de terrain, un joueur comme Adrien Rabiot, qui dans ses années parisiennes et même avant était un joueur qui se projetait beaucoup vers l'avant, il marquait beaucoup de buts notamment en Ligue des Champions avec le PSG, il a perdu un peu ce truc là pour moi avec la Juventus où c'est beaucoup de passes latérales, c'est beaucoup plus défensif dans les courses mais pas offensivement. Et j'ose imaginer que voilà, il faut un soutien offensif à Benzema et Mbappé, mais plus du profil que Mbappé que plutôt de Nkunku ou de Griezmann.
Oui, Boula, parce que j'aimerais réagir à Abdel aussi.
Alors, vas-y. J'ai un truc à rajouter par rapport à Benzema.
C'est quoi?
Et ça, je réponds aux journalistes de Prime Video hier pendant le match.
Ouais, carrément. Dit, voilà, Boula, par interposé. Oui, tu peux, vas-y.
Quand il dit le ballon du, quand il dit le ballon du peuple. Parce que ils arrêtent pas de la reprendre avec cette phrase.
Ouais.
Alors le peuple.
Mais ben, c'est sympa.
Je vais répondre avec Benzema parce qu'il est, comme il a horreur de la polémique.
Ouais.
Benzema, quand il parle du peuple, il parle du peuple africain, du peuple maghrébin, il parle du peuple français,
il parle de tout le monde.
Il parle des peuples de banlieue. Alors faut qu'il arrête de lui envoyer cette phrase.
On va voir aussi.
Envoyer cette phrase qui est ironique de la part des journalistes. Benzema, quand il dit je dédie ce ballon d'or au peuple, eh ben il dédie à tous les peuples du monde.
Ouais. Alors,
comme il a dit hier, il a dit le peuple lyonnais. Bon ben,
il est de Lyon. Voilà.
C'est la deuxième fois qu'on le reprend par rapport à ça.
Ouais.
Après,
tu trouves qu'il y a un peu de la moquerie, quoi.
Ouais, non, mais c'est pas qu'il y a de la moquerie.
Ouais. Alors,
Benzema n'est pas là pour conflit. C'est un footballeur, c'est un sportif.
Oh. Oui, bien sûr.
Il fait partie. Aujourd'hui, c'est le meilleur joueur au monde.
Ouais.
Il s'exprime d'une façon où à un moment donné, il fait très attention dans son expression, et je trouve ça dommage de la part des médias de remettre un bordel par rapport à cette phrase-là. Et c'est pour ça, quand on parle de l'équipe de France, on parle de VAR. Il est content d'être en équipe de France, il est content pour jouer, que faire sa Coupe du Monde, et il respecte le drapeau bleu, blanc, rouge. Ça, c'est bien, mais par contre, les journalistes qui restent à leur place et qu'ils arrêtent avec leur polémique,
voilà. Le peuple. Coup de gueule de Boula ce soir sur l'antenne de Beurre FM. Bien sûr, Boula, tu as le droit, concernant Karim Benzema et son ballon du peuple, son ballon d'or du peuple. Justement, on a des réactions, on va essayer d'avoir Ossine là.
Oui.
On va revenir à toi, Abdel. Ossine au 01 53 48 3000, on a aussi Abdel qu'on va faire réagir. Hein. On vous écoute, Ossine.
Bonsoir à tous. Oui, c'était juste pour faire un retour par rapport à l'équipe de France et ce que ça allait donner.
Il y a beaucoup de blessés.
Par rapport à la Coupe du Monde au Qatar. Ouais, c'est très simple. Hein. Je pense que Didier Deschamps, vu le nombre de blessés, il était obligé un petit peu de remanier tout ça. Et du fait que on sait très bien que la meilleure défense c'est l'attaque. Donc
ouais.
Lui, je pense qu'il reste sur cette idée-là d'avoir une très bonne défense et que lié par rapport à Karim Benzema, c'est un chasseur de but.
Ouais. Automatiquement, on a peur que Benzema n'y va pas. Et que ce sera pas le même,
oui,
peut-être.
Mais...
Hein. Ouais, au CNA.
Non,
un peu de pression, là.
Je pense qu'il n'y aura pas de problème. Il ne faut, faut pas trop polémiquer. Il ne faut pas trop parler de
ça. On l'espère.
Mais je pense que voilà, il faut laisser faire. Il faut qu'il se rétablisse. Il a fait il a fait deux années extraordinaires.
Bien sûr.
Donc, il a poussé un petit peu le bouchon un peu loin. C'est normal qu'à un moment donné, physiquement, on arrive à court. Là, il a pu se reposer, il a pu un petit peu respirer, il a pu prendre du bon temps par rapport à son ballon d'or. Donc, il faut juste le laisser un petit peu se remettre en forme. Et puis, je pense qu'il devrait faire une Coupe du Monde un petit peu fantastique. C'est juste, il faut juste laisser le temps. En ce qui concerne l'équipe de France,
et
je trouve que Kamavinga, il n'a pas été sélectionné.
Si. Ouais.
Si.
Ouais, Abdel, il le confirme. Même contre ça aussi.
Mais qui est en fait le remplaçant, entre guillemets, des Tchouaméni. Hein.
Ouais.
Moi, je pense que en équipe de France, je pense que Tchouaméni, Kamavinga ou Kamavinga, Guendouzi feraient un super bien milieu défensif.
Kamavinga, Tchouaméni, c'est très compliqué. Ils n'arrivent pas à jouer ensemble. Oh. On l'a essayé au Real et ça n'a pas marché.
Qu'avec le Real, ça ne marche pas, mais peut-être en équipe de France, ça devrait le faire.
Ouais.
Avec une configuration, avec une défense à 4 et 2 milieux, je pense que le flux de ballon pourrait être à son apogée. Et je pense que voilà, c'est juste cette connexion entre la défense et les milieux défensifs pour alimenter un petit peu l'attaque, parce qu'on sait qu'on a une attaque de feu. Je pense que l'équipe de France, avec Didier Deschamps, je pense que c'est ce travail-là qu'il devrait faire, qu'il devrait se baser sur un bon milieu défensif et offensif.
On verra bien.
Pour faire le piston et pour alimenter les attaques.
Intéressant aussi.
Voilà, ça va jouer.
Intéressant.
Pour le couloir, ouais. Ça va jouer axial avec Karim Benzema.
Merci.
Sur le couloir,
ouais.
Et Karim Benzema en axial. Je pense que comme ça devrait le faire.
Merci Ossine. Rapidement, avec Abdel, avant de donner la parole à Abdel aussi.
Pour te répondre, certes, c'est des beaux noms, mais c'est aussi d'expérience dans le football. Il y a ce que tu fais dans ton championnat, il y a ce que tu fais en Coupe d'Europe, et il y a ce que tu fais en,
en compétition internationale, des joueurs comme Kamavinga qui ont tout juste 20 ans, certes, et c'est des joueurs talentueux, mais quand on sait que lors de la Coupe du Monde 2018, le succès est passé par la qualité du milieu de terrain, c'est très dur de les remplacer. Tu peux vite cramer certains joueurs dans ce type de compétition. Donc pour moi, il y a des joueurs qui sont bien avant, même si on voit à travers la liste des 6 milieux de terrain qu'il y a quelques connexions, notamment entre Fofana, Tchouaméni, Guendouzi, Verretou, des petits trucs comme ça. Mais je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Rabiot, Tchouaméni semblent les 2 sur 3 au milieu de terrain qui tiennent l'accord pour débuter la semaine prochaine face à l'Australie. Pardon.
Le 0153483000 Abdel avec Rondrossé et aussi Boula pour terminer l'émission avec l'auditeur, justement, Abdel, du même nom que toi, tu vois. Bonsoir Abdel.
Bonsoir.
Comment ça va?
Bonsoir l'équipe, ça va et vous?
Ça va très très bien Abdel. Eh oui, on est un petit peu plus loin, écoutez, là, hein, l'équipe de France.
Ouais, non mais avant tout j'aimerais dire, bah, voilà, on en parle depuis un certain temps, donc on est impatient que ça commence enfin, quoi, la Coupe du Monde. Le championnat va être mis en pause pendant 6 semaines, donc on a le temps. On a le temps de se réjouir, j'allais dire, du retour du championnat. Donc c'est bien de temps en temps de couper un peu. Mais pour revenir sur le sujet de l'équipe de France, moi je pense qu'il n'y aura pas vraiment de surprise. Ça va être, voilà, vous avez parlé du milieu de terrain, mais pour moi, ça sera Tchouaméni, Fofana et Rabiot, parce que on connaît tout Didier Deschamps, on connaît sa philosophie. Quand on voit qu'il prend quasiment que des défenseurs centraux. Parce que c'est quasiment que des défenseurs centraux. Hein. Il y en a 7. Allez, si vous voulez mettre. Si on compte Pavard comme étant un latéral, alors que pourtant c'est aussi un défenseur central. Donc je pense que Deschamps, quand il est pas rassuré, bon bah oui. Il retrouve son schéma de jeu habituel, des mecs costauds au milieu, des couloirs solides. Là en l'occurrence, je pense que ça va être Lucas Hernandez. Donc voilà, il y aura pas de surprise. Et comme moi je l'avais dit dans une précédente émission, on va falloir compter sur les talents individuels de devant. Moi très honnêtement. Je vois l'équipe de France forcément parmi les favoris parce qu'elle est championne en titre, mais objectivement, je les vois pas du tout gagner cette Coupe du Monde cette fois-ci, quoi. Donc il faut aussi voir comment ça va fonctionner avec Giroud dans le groupe, parce qu'on sait que il y a eu des antécédents avec Benzema, etc. Donc est-ce que vraiment tout ça s'est apaisé ou pas, à vérifier.
Ouais.
Moi j'ai pas la certitude. Et ensuite, juste pour revenir.
Alors on va terminer avec ça.
Par rapport à ce que disait l'auditeur précédent, au milieu de terrain, il y a quasiment que des novices. Il y a des mecs qui ont rien fait en Ligue des Champions, donc il y a quoi de s'inquiéter. C'est parce que Guendouzi a verré tout encore pire en Ligue des Champions, c'est dramatique. Et je dis pas ça parce que je suis supporter parisien.
Bien sûr.
Mais je dirais la même chose, même de Fofana. Fofana, ça risque d'être compliqué pour lui, parce qu'il découvre vraiment le très très haut niveau. Donc,
je suis curieux
de voir comment tout ça va s'articuler.
On vous donne rendez-vous dès demain à partir de 20h, Abdel, pour poursuivre le débat. On va parler de l'équipe de France et aussi des nations africaines. Un grand merci, Abdel, à tous les auditeurs, les auditrices de Beurre FM. La suite des programmes, 21h, 23h avec Vanessa. Et nous, on se retrouve dès demain. Merci, Abdel, à Boula, et sans oublier, Juan Trossé. Bye bye.
Retrouvez Timesport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.